Donc je travaille sur les récifs coralliens, comme vous l'avez deviné, et en fait je suis plus particulièrement spécialiste de l'écologie des poissons qui sont associés aux récifs coralliens. Donc qui dit écologie dit aussi étude non seulement des poissons, mais aussi de leur environnement et notamment de l'habitat de ces poissons. Donc ce qui fait que j'ai une double compétence en fait sur le corail et sur les poissons. Je travaille particulièrement sur l'impact des dégradations en fait des récifs coralliens sur donc des dégradations globalement des récifs sur les poissons, les dégradations qu'elles soient naturelles ou dues à l'homme. Donc on y reviendra un petit peu là, pendant la conférence, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et je travaille aussi sur tout ce qui est thématique gestion des ressources et notamment sur la gestion des récifs coralliens à travers les aires marines protégées. J'ai travaillé aussi en Nouvelle-Calédonie. Je suis restée 4 ans donc à l'IRD. Et c'est vrai que les récifs vont de plus en plus mal dans le monde. Et ceux de Calédonie sont parmi ceux qui sont encore en très bon état. Donc, d'ailleurs, ils sont classés, inscrits à l'heure actuelle à l'UNESCO. Ce qui montre que ce sont des récifs assez exceptionnels. Alors, pour avoir juste des notions assez générales sur les récifs, donc ils ont une superficie d'à peu près 600 000 km² dans le monde, donc qui correspond à peu près à 0,20% de la surface des océans. Et on trouve 10% de ces récifs coralliens dans les dom-toms, donc ce qui montre vraiment le rôle important aussi de la France dans la protection et la gestion de ces récifs. Donc ils bordent plus de 100 pays dans le monde et il y a à peu près 1 milliard d'individus qui vivent proches des récifs coralliens. Donc c'est quand même des écosystèmes qu'on trouve, même s'il n'y en a pas dans les pays froids ou tempérés, ils sont très présents donc en milieu tropical. Donc c'est sur ces récifs qu'on trouve la biodiversité la plus élevée en milieu marin. À l'heure actuelle, on a inventorié à peu près 100 000 espèces, tout en sachant que donc, ce sont des inventaires et qu'il y a à peu près ce qu'on estime, en fait, il pourrait y avoir jusqu'à 2 millions d'espèces sur ces récifs coralliens. Donc tout ça pour souligner que 2010, année internationale de la biodiversité, que de faire une conférence sur les récifs coralliens, cette conférence mérite vraiment sa place dans le cadre de cette année internationale de la biodiversité. Donc d'abord, pour commencer, où va-t-on trouver ces récifs? Donc on les trouve dans les mers chaudes, en zone intertropicale. Donc dans des températures qui sont comprises entre 20 et 29 degrés. Là où on trouve le plus de biodiversité sur les récifs coralliens, c'est en fait dans la zone qui comprend les Philippines, l'Indonésie, donc l'archipel, ce qu'on appelle l'archipel indomalais. Et ces récifs, on va les trouver en fait pour qu'il y ait installation des coraux constructeurs de récifs, il faut qu'il y ait un relief sous-marin qui atteint la surface. Donc on les trouve notamment au bord de volcans, donc suite à un point chaud, donc un volcan qui a atteint la surface. Il y a les premiers coraux qui peuvent s'installer sur le flanc de ce volcan, évidemment en milieu sous-marin, donc c'est l'exemple du volcan de la Réunion. Ensuite on les trouve aussi en bordure de continents, comme par exemple sur la Grande Barrière, donc au bord de l'Australie, donc la Grande Barrière de Corail. Alors, quel est le rôle de ces récifs coralliens? Donc, on doit à ces récifs l'existence d'îles coralliennes, donc notamment les atolls, là, donc comme l'atoll d'Ouvéa ou l'atoll de Rangiroa, en Polynésie française. Donc, en fait, les récifs coralliens vont... élaboré au cours du temps, donc à travers l'élaboration des récifs, comme en fait l'atoll, c'est uniquement un récif corallien. On verra tout à l'heure un peu l'évolution des récifs au cours du temps, mais si vous allez sur un atoll, cet atoll doit l'existence uniquement à la présence des récifs. Ensuite, les coraux constructeurs de récifs aussi, donc les récifs coralliens, permettent la création d'habitats très divers. On peut imaginer un peu une mini forêt tropicale calcaire, donc toutes les petites espèces qui sont imbriquées en fait dans les branches des coraux, dans toutes les niches écologiques qui existent, et c'est grâce à cette diversité d'habitats qu'on trouve cette diversité si élevée sur les récifs coralliens. Ensuite, un rôle aussi très important, c'est la barrière corallienne. Donc, vous imaginez s'il y a un cyclone ou une grosse houle qui arrive sur cette barrière va amorcer les vagues et donc du coup limiter l'impact de ces vagues sur les côtes, et la barrière aussi limite l'érosion des côtes. Donc là, typiquement, on peut imaginer que s'il y a un tsunami ou des vagues très importantes qui arrivent, qui approchent d'une île, cette barrière va permettre en fait vraiment d'amorcer les vagues. Donc le récif a un rôle très important en ce qui concerne donc la protection des côtes. Ensuite, ils ont donc pour l'homme cette fois-ci un rôle socio-économique très important. D'abord, ce sont des écosystèmes où les gens vont aller pêcher, en fait. Donc, c'est une source de nourriture très importante pour les populations qui vivent au bord des récifs coralliens. Il y a plus de 500 millions de personnes dans le monde qui dépendent des récifs pour leur survie. Donc, c'est extrêmement important. Et ces pays sont essentiellement localisés dans les pays du Sud, en voie de développement. Ensuite, il constitue également une source de revenus importante aussi à travers la pêche commerciale et le tourisme. Donc c'est vrai que c'est des destinations qui font un peu rêver. Donc les îles tropicales aussi constituent des destinations privilégiées pour le tourisme. Donc aussi bien pour leur rôle écologique que socio-économique, ces récifs ont une importance majeure en milieu tropical. Donc on va un peu au-delà de l'image paradisiaque des récifs coralliens, de la carte postale. Hein, donc, ok, c'est peut-être une carte postale, mais en même temps, ils ont vraiment un rôle essentiel à jouer pour les populations qui vivent au bord de ces récifs coralliens. Alors, qui est responsable, en fait, qui construit ces récifs coralliens? Donc, à la base, on a un petit animal qui s'appelle le polype, qui est un animal minuscule, hein, de l'ordre de quelques millimètres, voire centimètres. Ce sont des animaux qui vivent en colonie. Donc c'est comme une sorte de petite anémone, un petit animal tout mou, avec une couronne de tentacules. Ce sont ces tentacules qui vont permettre, avec leur mouvement, d'attirer en fait la nourriture vers la bouche du polype. Et en fait, ces animaux sont extrêmement primitifs parce que vous allez avoir en fait la bouche qui fait aussi orifice d'anus. Cet animal va permettre, grâce à l'association qu'il aura donc avec notamment les algues, les zooxanthelles, va construire un squelette calcaire. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment la particularité des coraux constructeurs de récifs qui ont cette particularité d'être capables de construire un squelette calcaire. Par exemple, il y a plein de coraux. En fait, il y a des coraux mous, il y a des coraux... du corail rouge, du corail noir, il y a des différents types de coraux, mais seul le corail constructeur de récifs a cette capacité donc de construire un squelette calcaire. Et pour construire ce squelette, en fait, il va puiser, enfin pas uniquement pour construire son squelette, d'ailleurs pour vivre de manière générale, pour se nourrir, pour se reproduire, il va puiser son énergie dans la nourriture. Donc d'abord c'est un petit animal qui est carnivore, donc il va pêcher en fait, qui va capturer ses proies dans l'eau. Donc ses proies sont essentiellement constituées de zooplancton. Vous avez en fait au niveau de la couche externe des tentacules des cellules urticantes qu'on appelle les cnidoblastes et qui contiennent du venin, en fait, une petite capsule qui contient du venin. Et s'il y a un petit crustacé minuscule qui appartient au zooplancton qui se rapproche en fait de ces tentacules, vous allez avoir, il y a un petit cil en fait qui va sentir la présence de l'animal, et vous allez avoir comme une sorte de harpon qui va sortir de la capsule pour attraper ce petit crustacé. Ensuite, les tentacules vont apporter donc l'animal jusqu'à la bouche, et ensuite il va être digéré. Donc en fait, ces fameuses cellules qu'on appelle les cnidoblastes, ce sont ces cellules urticantes qu'on rencontre en fait chez tous les cnidaires. Donc les cnidaires, on a, comme je vous disais tout à l'heure, les coraux mous, les coraux durs, enfin le corail, même le corail de Méditerranée. Vous avez ces cellules qui existent, qui est la caractéristique des cnidaires, et vous les trouvez aussi notamment chez les méduses. Donc les méduses, c'est à cause de ces cellules qu'on a souvent des douleurs assez violentes dues aux méduses. Donc ils ont un venin en fait assez, selon les espèces, qui ont des venins plus ou moins toxiques. Donc à travers le fait qu'il arrive à pêcher des animaux, cette pêche va lui fournir un pourcentage de son besoin en énergie qui va être inférieur à 20%, donc c'est pas énorme. Et en fait, la majorité de son énergie, il va la capturer grâce à une association qu'il a avec des algues symbiotiques qu'on trouve dans le tissu aussi extérieur, donc du polype. Donc ces algues unicellulaires qui sont contenues dans ce tissu, ça s'appelle des auxanthelles. Donc c'est quand même assez original. On a affaire ici donc à un animal qu'on appelle le polype, qui contient dans son tissu donc des algues, des auxanthelles. Donc il y en a vraiment énormément, hein, plus de 30 000 auxanthelles par millimètre cube. Donc c'est quand même, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Et il va y avoir une association particulière entre ces auxanthelles et les polypes. Donc une association en fait où chacun va apporter à l'autre ce dont il a besoin. Alors les auxanthelles, à travers donc en capturant le soleil, à travers la photosynthèse, va produire de l'oxygène et des sucres, hein, des matières organiques, qui vont être ensuite utilisées par le polype, qui lui va à travers la respiration donc fournir du dioxyde de carbone et des déchets, qui seront eux aussi donc assimilés par la zooxanthelle, qui ensuite donc on repart, donc c'est un cycle qui en continue. Et en parallèle, vous avez donc les zooxanthelles qui vont capturer le dioxyde de carbone contenu dans l'eau et aussi du calcium, qui va permettre en fait au polype de fabriquer son squelette de calcaire. Donc en fait, c'est très important en fait cette symbiose. Au départ, quand les gens travaillaient sur les récifs coralliens, il y avait vraiment une énigme à savoir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les milieux tropicaux, ce sont des milieux qui sont dits oligotrophes, pauvres en éléments nutritifs, et comment ces milieux oligotrophes pouvaient construire ces constructions en fait gigantesques que sont les récifs coralliens dans des milieux aussi pauvres. Et donc la clé de l'énigme se trouve dans cette symbiose. Donc cette symbiose en fait va fournir plus de 80% des besoins énergétiques de l'animal. Donc c'est assez important. Alors, ce corail constructeur de récifs, on a vu qu'il était animal, donc via le polype, il est végétal, donc via les zooxanthelles, et donc il y a aussi du minéral puisqu'il construit son squelette de calcaire. Donc vous voyez, il a quand même des caractéristiques très particulières. Alors ça, c'est une petite boutade que je dis souvent aux enfants, parce qu'en fait, je vois, quand on vit à La Réunion, les gens vont sur le récif, on voit des bouts de coraux sur la plage, et on a l'impression vraiment que c'est des cailloux, en fait. Les gens pensent souvent que c'est pas vivant, que c'est des bouts de cailloux, et en fait, les polypes, en plus, vous les voyez pas la journée, parce qu'ils vivent rétractés à l'intérieur des coraux, et en fait, les petits tentacules dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, sortent la nuit, quand il y a les mouvements, donc quand le zooplancton remonte à la surface, et c'est à ce moment-là que les tentacules sortent. Donc c'est vrai que vous plongez la journée sur un récif, vous regardez ces coraux, on a vraiment l'impression que ce sont des cailloux. Et bien non, c'est absolument pas des cailloux, ce sont bien des animaux. Et la preuve en est, c'est que ces animaux, en fait, ont la particularité, c'est qu'ils se reproduisent en pondant des œufs. Donc ils ont deux types de reproduction. Soit ils se reproduisent de manière sexuée, via des gamètes, à travers la ponte, ou soit donc ils se reproduisent de manière asexuée par bourgeonnement. On utilise cette faculté qu'ont les coraux de bourgeonner en fait pour faire de la restauration de milieux coralliens. si un milieu a été très, très dégradé, en fait, il y a donc des manips de bouturage. En fait, on casse une petite branche d'un corail. Alors, il faut qu'il soit refixé à un substrat. Donc, on met de la colle spéciale ou du ciment prom qui prend très vite sous l'eau. Et on arrive comme ça, en mettant des petits bouts de coraux un peu partout sur le récif, la petite branche va va bourgeonner et grandir et pouvoir refaire des colonies coralliennes de grande taille. Donc ça, c'est vraiment, ça montre que ces coraux constructeurs de récifs sont vraiment des animaux très primitifs qui ont cette capacité d'avoir une double reproduction. Alors, ces coraux constructeurs ont des formes qui sont extrêmement variées. On a des colonies qui peuvent être branchues. Donc ces colonies branchues, on les trouve surtout dans des milieux qui sont calmes et où il y a beaucoup de lumière, donc dans des milieux peu profonds. Il y a aussi des colonies qui sont foliacées. Donc ces colonies sont beaucoup plus fragiles en fait et elles ont tendance à s'étaler pour capturer pour recevoir la lumière. Donc maintenant le fait que le corail s'étale pour recevoir de la lumière n'a plus de secret pour vous, puisque en fait c'est toujours à cause de la présence des zooxanthelles. Donc il faut vraiment de la lumière pour que le corail puisse vivre. On a aussi donc des colonies qui sont massives, donc c'est des colonies beaucoup plus trapus, hein, qui résistent davantage et qu'on trouve surtout dans des zones qui sont agitées ou alors en milieu profond, à partir de 15 mètres. Les colonies branchues deviennent un peu moins importantes. Par contre, les colonies massives et les colonies encroutantes sont plus présentes. Et puis, il y a des colonies tabulaires aussi qui peuvent faire... on peut avoir des tailles très importantes de ces colonies, donc qu'on trouve beaucoup en profondeur et qui peuvent s'étaler. On a des colonies qui peuvent faire 2-3 mètres de diamètre. Donc, c'est assez joli. Et souvent, sous ces colonies, vous avez plein de poissons qui s'abritent et qui se cachent. Donc j'ai déjà souligné tout à l'heure, mais je le répète, donc ces formes très variées vont permettre donc des habitats très variés au niveau des récifs coralliens, donc qui vont permettre à un très grand nombre d'espèces de cohabiter. En fait, en écologie, plus vous avez donc un habitat diversifié, plus ça va permettre des niches écologiques importantes, donc avoir un nombre d'espèces qui cohabitent plus facilement. Et on le répète, c'est que ces récifs donc abritent la biodiversité la plus élevée en fait qu'on trouve en milieu marin. Par exemple, dans la région Indo-Pacifique, donc qui rassemble l'océan Indien et l'océan Pacifique, on a inventorié jusqu'à présent environ 500 espèces de coraux. Donc là, qu'on parle uniquement des madrépores, hein, des coraux constructeurs de récifs, des mollusques, plus de 5000 espèces. Donc les mollusques, c'est comportent essentiellement les coquillages qui sont très diversifiés sur les récifs coralliens. Et au niveau des poissons, plus de 2200 espèces. Donc c'est extrêmement riche et pas toujours évident de travailler sur les poissons sur les récifs coralliens, parce que ça demande une connaissance importante en fait de la richesse du milieu. Si vous voulez, je pourrais discuter un petit peu de mon travail en particulier après la conférence, que moi j'utilise en fait. Donc je travaille sur les poissons, évidemment quand je travaille sur les poissons il faut que je les inventorie à la base, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur un milieu. Je travaille sur la totalité des espèces qu'on peut voir par observation visuelle en plongée, donc je plonge et j'ai une méthode de travail à la base. J'utilise un quintuple décamètre, donc c'est un ruban gradué qui fait 50 mètres de long que je mets sur le sol avec, j'estime, on va dire, bon ça dépend des endroits, mais si on va dire un mètre de chaque côté, ça peut être 2 mètres, ça peut être 3 mètres, ça dépend du milieu, mais si c'est un mètre de chaque côté, donc 2 mètres de large, donc ça fait 2 mètres sur 50 mètres, donc une surface de 100 mètres carrés, et sur cette surface, j'inventorie en fait toutes les espèces que je vois. Donc par observation visuelle, donc j'ai une plaquette et un crayon noir, et je note tout ce que je vois sur... dans cette surface. Et donc comme je vous disais, les récifs, ce sont des milieux qui sont extrêmement riches. Du coup, on fait des comptages en séparant en fait les poissons en fonction de leur comportement. C'est-à-dire que le premier passage sur les 50 mètres, je compte la majorité des espèces que je vois. Ensuite, le deuxième passage, quelques espèces qui sont attirées par le plongeur, comme les labres. Donc, pour éviter de les compter plusieurs fois, parce qu'ils vous tournent autour, ils reviennent, ils repartent. Donc, ceux-là, on les compte juste durant un passage. Et puis, on peut faire un ou deux passages de plus, là, en comptant uniquement les espèces qui sont sédentaires et bien associées à la colonie corallienne. Donc, ce qu'il faut dire à la base, c'est que les poissons qui sont associés au récif corallien sont des poissons sédentaires, qui ne bougent pas autant que ça. On ne compterait pas comme ça des poissons pélagiques, des thons ou des requins. On a des méthodes de comptage différentes. Alors, comment ces récifs évoluent-ils au cours du temps? Alors, cette histoire que je vais vous raconter, c'est la théorie de Darwin. Donc, elle n'est pas à 100% vérifiée. C'est pas toujours le cas, mais très souvent, ça se passe comme ça. Donc là, on part d'un volcan qui émerge. Hein, donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, on imagine un point chaud là qui est à l'heure actuelle sous la Réunion. Donc, j'arrête pas de parler de la Réunion parce que c'est là où je vis en fait. Donc, ça pourrait être n'importe quelle autre île qui est née d'un point chaud. Donc, on a les premières colonies qui s'installent sur les flancs du volcan. Donc là, on a le premier stade de qu'on appelle le récif frangeant. Donc, c'est un petit récif qui est attenant à la côte. Il est en général large de quelques centaines de mètres. Pour prendre l'exemple de la Réunion, vous avez entre 100 mètres à 500 mètres au maximum. La barrière corallienne se trouve à 500 mètres au maximum. Donc, ce qui montre juste que ces milieux, en fait, c'est des milieux qui sont extrêmement vulnérables, parce que dès qu'il y a vous imaginez un cyclone, beaucoup de pluie, des produits toxiques qui sont sur le flanc du volcan, tout ça arrive sur les récifs, et quand vous avez la barrière qui est si proche, elle est très vulnérable. En Calédonie, vous avez la barrière qui peut être à 80 km au large, donc du coup, cette barrière est moins fragile. Et ce sont donc à l'intérieur du récif frangeant, il est peu profond, hein, de 1 à quelques mètres. Ensuite, au cours du temps, vous avez ce récif qui va se développer vers le large pour former ce qu'on appelle un récif barrière. Avec cette fois-ci, la barrière, elle se situe à plusieurs kilomètres, hein, du bord des côtes. Donc, comme je vous disais, elle peut aller jusqu'à 80 km, même plus, 80 km en Calédonie, plus de 200 km sur la grande barrière de corail. Et à ce stade-là, va s'individualiser ce qu'on appelle un lagon. Donc, le lagon, cette fois-ci, qui va être profond de plusieurs dizaines de mètres. Par exemple, le lagon de Mayotte, vous avez une profondeur de 50 mètres quand vous allez plonger dans le lagon. Donc là, à ce stade-là, vous avez non seulement la barrière qui s'étale, qui continue à grandir, mais en même temps le volcan qui commence à s'affaisser sous son propre poids, ce qu'on appelle des phénomènes de subsidence. Ensuite, on continue l'évolution, le volcan qui continue toujours à s'enfoncer et la barrière qui se développe. Et enfin, le stade ultime, donc c'est l'atoll. Cette fois-ci, donc le volcan a disparu, hein, il est plus du tout à la surface. Donc l'atoll, c'est uniquement une couronne corallienne, où il y a des gens qui habitent d'ailleurs sous cette couronne corallienne. Et donc c'est vrai que les atolls sont des milieux qui sont extrêmement vulnérables à l'heure actuelle au changement climatique avec l'augmentation du niveau marin. Donc vous avez des dunes qui doivent faire 1 mètre ou 2 mètres de haut, donc vous imaginez là déjà avec un fort cyclone, il y a des vagues qui passent par-dessus les zones qui sont en surface, et avec l'augmentation du niveau marin, c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant. Donc en fait, ces différents stades correspondent à l'évolution du récif au cours du temps. Maintenant, on va voir quelles sont les conditions qui permettent donc aux récifs coralliens de vivre dans de bonnes conditions. Donc, la première, on l'a déjà vu, c'est la température. Donc, une température supérieure à 20 degrés. Donc, ces récifs vivent dans les milieux, dans les mers chaudes, hein, avec un maximum pour leur métabolisme qui se situe entre 27 et 28 degrés. Deuxième facteur important, c'est l'éclairement. Donc, l'éclairement qui doit être suffisant pour assurer la photosynthèse des zooxanthelles. Troisième paramètre qui va aussi avec l'éclairement, c'est la profondeur. Donc, plus cette profondeur doit être compatible aussi avec, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière pour qu'il y ait, que les oxantelles puissent faire leur photosynthèse. Et donc cette profondeur va être proportionnelle à la transparence des eaux. Par exemple, à La Réunion, vous avez des eaux qui sont extrêmement claires, hein, donc vous trouverez des coraux jusqu'à 50 mètres. Par contre, à d'autres endroits où vous avez des eaux plus chargées, les récifs, vous les trouvez jusqu'à 20, 25 mètres, voire même encore moins si les eaux sont très chargées. Un autre facteur important, c'est la salinité. Donc ces coraux qui existent depuis 200, voire 300 millions d'années, vivent dans des, ont besoin des eaux avec une salinité normale de 35 pour 1000. Ils ne supportent pas en fait les dessalures. Dès qu'il y a des eaux qui perdent un peu de leur salinité, c'est quelque chose que, en général qui est assez fatal pour les coraux. Par contre, ils supportent à la limite que les eaux soient un petit peu trop salées, quoi, qu'il y ait des sursalures, sursalinité. Et autre facteur aussi, c'est la turbidité, c'est-à-dire les particules en suspension qu'on peut trouver dans l'eau. Donc plus l'eau sera chargée, plus ça aura un impact négatif sur ces coraux. Donc on imagine que c'est évidemment parce que l'éclairement va être moins important, donc qui va limiter la photosynthèse. Enfin, le dernier facteur qui est important, c'est le substrat. Donc le corail a besoin d'un substrat stable et solide pour se fixer. Donc ils ne s'installent pas partout, hein. Ils ont besoin de ce support solide et stable. Donc un substrat volcanique, comme on l'a vu, c'est parfait. Mais aussi des récifs artificiels ou des épaves. Vous avez, dès qu'il y a un substrat, c'est très vite colonisé aussi par des coraux si les conditions environnementales sont bonnes. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y a des conditions, des paramètres environnementaux qui vont changer, donc soit la température, l'éclairement ou autre, il va y avoir ça va générer un stress pour le corail, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va expulser ces algues qui sont pourtant indispensables à sa survie, les fameuses zooxanthelles. En fait, le stress, il va y avoir une production, le polype va trop produire d'oxygène qui va empoisonner le polype, qui va être obligé d'expulser ses zooxanthelles. Donc, ces zooxanthelles aussi, c'est ce qui donne la couleur au corail, associé aussi avec des pigments. Donc, il y a les pigments et les zooxanthelles. Et quand ces zooxanthelles sont expulsées, le corail va blanchir. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux blanchissement du corail, si vous en avez déjà entendu parler. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, il y a des cas où le corail arrive à récupérer des zooxanthelles dans le milieu environnant, mais la plupart du temps, il finit par mourir parce qu'il lui manque de l'énergie. Il y a plus de 80% d'énergie qui est quand même donnée par la symbiose avec les zooxanthelles. Et à ce moment-là, les colonies se font très vite recouvrir par des algues et meurent. Et donc, c'est ce qui pose en fait, qui cause la dégradation des récifs. Enfin, donc, maintenant qu'on a bien compris les conditions de vie de ces récifs coralliens, on va parler des menaces qui pèsent sur eux, donc qui sont assez logiques après avoir bien compris les coraux avaient besoin pour leur survie. Alors la pression, la dégradation majeure de ces récifs coralliens vient des pressions anthropiques, des pressions humaines, des activités humaines en fait qui sont très importantes dans zones côtières. En fait, il y a plus de 70% de la population mondiale qui vivent sur les côtes, donc il y a une pression extrêmement forte sur ces côtes. Notamment, vous avez des aménagements hein, sur les côtes, des dragages, on peut faire des remblais aussi, pour construire, pour agrandir les îles, pour faire des aéroports, enfin des pistes d'atterrissage. En fait, les dragages sont aussi faits pour. Dans certaines îles, on utilise du corail pour faire de la chaux, pour faire des constructions. Il y a aussi ces activités humaines qui vont générer aussi des rejets d'eau usée, qu'elle soit agricole, domestique ou industrielle. Donc ça va avoir comme conséquence d'enrichir votre milieu en éléments nutritifs et qui va être la cause de ce qu'on appelle des phénomènes d'eutrophisation. Donc là, vous voyez que le corail disparaît et va être remplacé petit à petit par des algues. Ensuite, il y a aussi des phénomènes de la surfréquentation de ces récifs. Beaucoup de gens vont pêcher, vont piétiner les récifs. Et il y a aussi de la destruction des colonies coralliennes via les ancres qui cassent ces colonies. Ensuite, il y a les pressions qui sont naturelles, donc qui existent, qui sont là depuis des millions d'années, notamment les cyclones qui existent. C'est des phénomènes naturels en milieu tropical. Donc ces cyclones ont un impact qui peut être direct via la houle qui va casser les vagues, la houle qui vont casser les colonies coralliennes, ou indirect. Je vous parlais tout à l'heure de la Réunion, l'exemple du volcan. Dès qu'il y a un cyclone, vous avez donc beaucoup de pluie, si vous êtes sur une île comme la Réunion où il y a beaucoup de déforestation, d'urbanisation, de construction de routes, donc toute cette pluie qui va raviner, l'eau va arriver sur le récif et va provoquer des dégradations très importantes. Notamment, il y a une dizaine d'années, il y a eu un gros cyclone qui s'appelait Feringa, qui a carrément détruit un des récifs de la Réunion de Saint-Leu à plus de 90%, parce qu'il y avait une couche de terre, en fait, qui était posée sur les colonies, qui les ont étouffées. Et donc, c'est suite à ce cyclone, d'ailleurs, qu'on avait tenté les expériences de restauration dont je vous parlais tout à l'heure, de bouturage. Ensuite, on peut avoir aussi des pullulations d'organismes. Donc ça peut être des pullulations d'algues, ça peut être des pullulations d'étoiles de mer épineuses, ce qu'on appelle les acanthastères, et aussi développement de maladies qu'on trouve sur les coraux. Et autre phénomène aussi qui est de plus en plus inquiétant à l'heure actuelle, c'est l'augmentation de température, va causer un stress sur ces récifs et va provoquer un blanchissement massif du corail. Donc ça, c'est assez inquiétant, parce que si vous avez des petites zones qui sont touchées par une augmentation de température, mais qui est un phénomène qui ne se passe pas à l'échelle régionale, mais un phénomène local, on peut se dire que via les œufs, via la reproduction sexuée, il y a des nouvelles petites larves qui vont pouvoir recoloniser les récifs qui ont été touchés par une mortalité, une dégradation locale. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que quand ces phénomènes se passent à une échelle régionale, une grande échelle, vous avez peu de zones qui peuvent régénérer le récif, parce que la dégradation se fait à une échelle trop grande. Alors, quelles sont les solutions pour gérer un petit peu, pour essayer d'améliorer un peu ces récifs coralliens? Donc, d'abord, vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 20% des récifs qui sont détruits dans le monde, 25% qui sont en état critique et 25% qui deviendront aussi en état critique si d'ici 2050, rien n'est fait. Donc ça, c'est des chiffres qui sont donnés par l'ICRI, qui est l'initiative Coral Reef, une initiative internationale sur les récifs coralliens. Et ces chiffres, en fait, ils viennent d'études qu'on fait à l'échelle mondiale. Il y a un réseau mondial qui existe de suivi des récifs coralliens dans toutes les parties du monde. Et tous les ans, exactement à la même période, on fait des suivis sur les mêmes transects. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux ruban gradué là, qui est posé sur le sol. On a des stations comme ça là, qui sont suivies partout dans le monde. Et on arrive à suivre l'évolution des récifs à l'échelle mondiale. Donc, c'est à travers ces études qu'on arrive à avoir ces chiffres que je vous ai donnés. Donc, voilà, donc, il y a le constat de dégradation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation? Alors, pour moi, il y a trois solutions. C'est comprendre, mieux gérer et informer. Donc, mieux comprendre, notamment en favorisant la recherche, parce que, les milieux récifaux sont des milieux extrêmement compliqués. On a encore plein de choses à découvrir, à comprendre, parce que, justement, vous avez un nombre d'espèces qui est très élevé. Donc, plus il y a d'espèces, plus c'est compliqué, plus les interactions sont nombreuses. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Et c'est essentiel, si on veut mieux gérer un espace, de comprendre comment il fonctionne. Sinon, la gestion est difficile. Ensuite, dans la partie gestion aussi, donc limiter les pressions humaines sur l'écosystème, notamment à travers la mise en place d'AMP, donc c'est ce qu'on appelle les aires marines protégées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un point de vue gestion qui est très important et il y en a de plus en plus dans le monde. Elles ne marchent pas toujours très bien, mais il y a quand même des initiatives qui se font. À travers aussi l'installation de récifs artificiels pour soulager la pression, en fait, la pression de pêche, notamment sur les récifs coralliens. Si vous mettez des récifs artificiels dans des zones qui sont des zones sableuses, par exemple, ça permet quand même d'aller pêcher, de reporter la pêche sur d'autres milieux. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de l'inscription des récifs de Calédonie à l'UNESCO. Donc ça, c'est sûr qu'aussi, c'est un excellent moyen pour conserver en bon état ces magnifiques récifs de Calédonie. Et le fait de limiter la pression humaine va permettre de favoriser en fait la capacité de régénération des récifs face à une pression naturelle. Donc c'est ce qu'on appelle la résilience, la capacité de réagir. Parce que autant on peut faire quelque chose sur les pressions humaines, autant il est difficile, les cyclones, ils passeront toujours. Mais si le milieu est protégé, il aura des capacités de réagir meilleures. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien favoriser l'installation donc de ces aires marines protégées. Et puis enfin, informer et sensibiliser. Donc c'est un petit peu aussi ce que je fais aujourd'hui. J'essaye de je pense que si on arrive à mieux comprendre un écosystème, on arrive du coup à on le protégera plus facilement en ayant la connaissance. C'est sûr que je pense que là, si vous allez plonger sur les récifs de Calédonie demain, why not? Je pense que vous ferez attention à ne pas casser une branche de corail, à ne pas vous accrocher un coup de palme, tout ça c'est vite donné, et c'est vrai que s'il est cassé, le corail il est mort, quoi. Donc voilà, déjà se dire que le corail c'est un animal, c'est pas un caillou, donc bon, c'est des petits détails, c'est des petits grains de sable qu'on sème un petit peu, qui sont peut-être pas énormes, mais c'est important aussi d'informer, donc c'est pour ça que c'est vrai que je le fais avec d'autant plus de plaisir que je suis convaincue de l'intérêt de le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.